à Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est la fête de Saint Josaphat. Saint Josaphat qui est né dans la religion orthodoxe et qui a été gagné à 20 ans par le courant sympathique à cette époque à l'église de Rome. Et alors il est devenu moine de Saint Basile. Ce sont des moines de rite orthodoxe, mais qui sont unis à l'église catholique. Et il est devenu évêque de Vitebsk, dans la Pologne actuelle. Et comme il travaillait avec zèle à l'union des églises d'Orient et d'Occident, comme nous devons tous travailler à cette union par l'amour, par la tendresse, par le désir de vraiment remplir le désir même de Jésus qui nous dit « Soyez unis ». Eh bien, il a été tué par quelques exaltés, et il ne faut pas attribuer ça à l'orthodoxie, loin de là, quelques exaltés en 623 dans sa ville épiscopale. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint Josaphat Koncevitch a été canonisé en 1867 par Pie IX. Et non pas par Pie XI, comme c'est dit dans ce petit livre que je vous recommande quand même, consacré aux uniates, et qui a été publié par Fides et les éditions du Cerf, les uniates de Jean-Claude Roberti. Donc il a été canonisé par Pie IX et non pas par Pie XI. Mais ce petit livre sur les uniates est fort intéressant. Les uniates, ce sont tous les chrétiens de différentes origines, très anciennes, très très anciennes, qui ont décidé de s'unir à l'Église de Rome, et ce qui fait que dans la grande Église catholique, il y a une vingtaine d'églises différentes. Voilà que Josaphat Koncevitch est né en 1580 à Vladimir, en Volhynie. Ses parents appartenaient, d'après quelques auteurs, à une famille noble, dont le blason représentait justement une rose dans un écusson armorié, mais à laquelle il ne restait de son ancienne splendeur que ce petit emblème, cet emblème. C'est tout ce qu'ils avaient. Ils avaient un blason. Ils avaient tout perdu. Ça rappelait pour eux que la gloire de ce monde a la durée d'une rose. Et Josaphat lui-même, lorsqu'il est parvenu aux grandes dignités ecclésiastiques, il aimait à rappeler sa condition très humble d'autrefois. Son père s'appelait Gabriel. Gabriel Koncevitch, qui remplissait la charge de conseiller municipal de Vladimir. Sa mère s'appelait Marine. Nous avons d'ailleurs à Radio Ville-Marie une discothécaire remarquable qui s'appelle Marina, et qui vient d'ailleurs de Russie, et qui est fort charmante, je profite pour la saluer. Marine, donc, sa mère, était fille d'un conseiller municipal de la même ville. Josaphat, qui s'appelait Jean au départ, a été baptisé selon le rite grégoslave en usage parmi les Russes à l'église de Sainte Parasève, Vierge et Martyr. On la voit souvent sur des icônes, cette sainte. Il a donc reçu, comme j'ai dit, le nom de Jean. Il n'avait rien de la légèreté de certains enfants. Il aimait bien laisser les jeux, là, laisser ses compagnons jouer, afin de prier. Et il avait beaucoup d'attrait pour la prière. Ça se voit chez certains jeunes enfants. Oui, j'ai vu ça dans ma jeunesse. Ça se voyait. Il était appliqué aux études, ce Jean. Il a fait de grands progrès dans les langues russes et polonaises. Ses progrès, il les doit à sa capacité, autant qu'à son application. Et à mesure que Jean avance en âge, il croit aussi en vertu. C'est un bon adolescent. Lorsque ses parents sont obligés de le placer chez un négociant plutôt riche à Vilno pour qu'il puisse faire un peu d'argent, cette nouvelle situation ne change rien à sa conduite. Il se laisse pas prendre par les facilités. La religion était dans une situation plutôt déplorable en Pologne. Et ça a préoccupé le jeune Konchevitch, qui était alors âgé d'à peine 20 ans. Ce qui lui causait le plus de peine, c'était de voir les ravages du protestantisme au sein de l'Église russe, l'Église orthodoxe russe, et le petit nombre de ceux qui s'étaient ralliés à l'Église de Rome afin de sauvegarder ce qu'il considérait, lui, dans son cœur et dans sa sincérité, comme la véritable orthodoxie, et qui gardait le rite grégo-slave tout ensemble. Alors, il fallait se fixer sur la voie à choisir. Il savait pas au juste au début quoi faire. Je vous rappelle qu'il y a une belle église russe de rite gréco-slave et qui est catholique. C'est derrière la grande maison des jésuites qu'on appelle la maison Bellarmine au 25 ouest de la rue Jarry. Quand on remonte la rue Saint-Laurent qui longe leur terrain vers le nord, on arrive à cette petite église un peu cachée. C'est une église catholique. Et là, on peut entendre cette belle liturgie de nos frères que j'aime beaucoup, moi, nos frères orthodoxes. L'église de la Trinité, où il était desservie par des religieux basiliens qui reconnaissaient le Saint-Siège de Rome. Alors, il s'est mis à la fréquenter. Il était orthodoxe, mais il s'est mis à la fréquenter de préférence à d'autres. Il en est même venu à y mêler sa voix au chant du cœur. Et même, il en est arrivé à servir à l'autel. Il a même sonné les cloches, ce qui est très important dans cette liturgie, ces jolies cloches là, qui tintent, elles sont nombreuses, et vous avez déjà entendu, j'espère, les cloches des Russes, c'est merveilleux, c'est superbe, c'est tout à fait différent de nos cloches. Et sous la direction de deux jésuites célèbres, eh bien, le jeune Jean Konchevitch, qui deviendra Josapha, apprend la philosophie, la théologie en langue slave. Il avance aussi dans les voies de la vie intérieure. Son contact, ses relations avec les catholiques remarquables du moment, ne tardent pas finalement à produire certains effets. Alors, Jean conçoit de l'attrait pour une vie plus parfaite. Il est convaincu de son incapacité pour le commerce. Alors, il prend la résolution d'échanger tout ça contre une tâche spirituelle. Et il supplie notre Seigneur de l'aider dans cette affaire. Ça me rappelle l'histoire que m'avait racontée un prêtre très important de Montréal qui travaillait à la brasserie O'Keeffe et qui un bon jour, en rentrant dans son bureau, se disait « Qu'est-ce que je fais là ?» Et puis, il a tourné le dos plus ou moins rapidement. Puis il est allé faire son entrée au grand séminaire à l'âge d'une quarantaine d'années, je pense, ou 35 ans. Alors, c'est un peu ça ici. Le principal obstacle pour le jeune Jean, le futur Josapha, ça vient de son patron, Hyacinthe Popovitsky. Parce que M. Popovitsky, le commerçant, n'ignore pas combien ses confrères aux jeunes gens sont édifiés de sa conduite. Quelle conduite magnifique à ce jeune commis. Et lui-même, ben, il admire la vertu de Jean Konchevitch. Et il pense l'attacher à sa famille, à sa maison, en l'adoptant comme son fils, en le constituant comme héritier de sa fortune, car il est très riche puis n'a pas d'enfant. Alors l'offre est très séduisante pour ce jeune homme. Mais Jean, dont le cœur aspire à une vraie richesse, renonce sans hésiter à tous ces avantages matériels qu'on lui propose. Et quelque temps après, eh bien, ses souhaits sont accomplis. En 1604, au couvent de la Trinité, à Vilnius, Jean Konchevitch reçoit l'habit religieux de la main de Pochey, alors métropolitain de Kiev. Et il fait en même temps sa profession religieuse, selon l'usage qui s'était introduit parmi les basiliens du pays, et qu'on a bien fait d'abolir depuis, parce que c'est un peu rapide. Pour se conformer à une autre coutume, il change son nom de baptême en Jean. On voit ça souvent en religion. Plutôt, il change son nom de baptême, de Jean en celui de Josaphat. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ce jour-là date, pour ainsi dire, l'ordre vraiment des Basiliens unis, car il l'a tellement animé, cet ordre. L'ordre des Basiliens unis de Pologne. Et ce premier novice est comme la pierre angulaire de la maison de Vilno, berceau de l'ordre tout entier, finalement. C'est ce qui va arriver. Le nombre des candidats à la vie religieuse croît, mais lentement, à cause de la difficulté des temps, d'abord, et puis aussi à cause de la complète indifférence que le supérieur du couvent, Samuel Sancillo, témoignait aux intérêts des âmes. C'était un mauvais supérieur. Sous un dehors de simplicité apparente, cet étonnant supérieur cachait des intentions plutôt hostiles à l'union des catholiques et des orthodoxes. Il favorisait en secret les partisans du schisme, c'est-à-dire de cette douloureuse, très douloureuse séparation des deux plus grandes églises chrétiennes, que sont les églises catholiques et orthodoxes. Ce sont les deux grands poumons de la chrétienté. Quelle tristesse, je le répète, que ce soit séparé. Et quant aux religieux confiés à ses soins, il s'en souciait aussi peu, ce supérieur, que de l'édifice matériel. L'édifice matériel qui les habitait, mais qui ressemblait à une ruine plutôt qu'à une maison religieuse, disait-on. Il y avait à l'entrée du monastère toutefois une petite cellule, à peine digne de ce nom, et Josaphat chérissait par-dessus tout cette petite cellule, parce qu'elle était la plus rapprochée de l'église. Et c'est dans ce vestibule du paradis, comme il disait, qu'il s'est enseveli pour mener une vie d'anachorète. On commence à le rechercher, en lui demandant des entretiens. Et le bienheureux Josaphat aime trop la solitude, lui, pour permettre qu'on la trouble par des visites trop multipliées. Alors il quitte donc sa cellule qu'il occupe, puis il s'établit dans la petite chapelle de Saint-Luc, située dans le vestibule de l'église et complètement abandonnée, puis il continue sa vie d'ermite, et il n'en sort que pour se rendre aux offices du cœur et aux autres exercices de la communauté. Et pourtant, sa porte est ouverte à un ami, Joseph Rutsky. Le souhait de l'unité s'énonce dans Saint Jean au chapitre 17, verset 21. « Que tout se soit un, comme toi, Père. Tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Et oui, nous avons été réconcilié avec Dieu et avec les autres par la vie, la mort et la résurrection de Jésus, notre Seigneur. Ah, si nous étions franchement réconciliés. Et vous savez qu'il y a moins d'un mois, c'est 3 semaines après avoir subi l'ablation de l'appendice, Jean-Paul II a repris ses activités. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a célébré tout de suite dans la basilique Saint-Pierre une messe pour le 350e anniversaire de la reconnaissance par l'Église ruthène orthodoxe de l'autorité du Saint-Siège. Pas une autorité méchante, une autorité fraternelle, une autorité de service, une autorité d'union. Et le pape marchait bien lentement, évidemment, il a béni les fidèles. Et lors de la traditionnelle bénédiction dominicale, Jean-Paul II a souligné ce jour-là la profonde communion de foi, ce sont ses paroles, unissant l'Église catholique romaine aux Églises orthodoxes. Nous avons une profonde communion de foi, nous croyons au fond la même chose. Et il a dit ce jour-là, durant mon récent séjour à l'hôpital, l'expression de la solidarité de nombreux frères de ces Églises ont été pour moi d'un grand réconfort. Je remercie Dieu pour cette belle journée. Son cœur est débordant, lui, il est polonais, n'est-ce pas? Puis là, je parle d'un saint polonais aujourd'hui. Et alors, je vous ai dit que sa porte restait ouverte pour son ami Joseph Rutsky. Il désire vivement compter cet ami au nombre de ses frères. Il cesse de demander à Dieu cette grâce qui lui est accordée 2 ans après son entrée au noviciat, en 1606. Il a également le bonheur de voir entrer dans son ordre des basiliens, des jeunes gens, attirés par ce qu'il leur dit autant que par l'exemple qu'il leur donne. Et Josaphat n'est que diacre. Il fait preuve quand même d'un zèle ardent, déjà comme un vrai prêtre, pour la conversion des gens qui ne sont pas unis. Il est dévoré par cette idée. Il en ramène un bon nombre au sein de l'Église catholique orthodoxe, dirait-on. Les uns par la discussion, d'autres par la prière, les larmes, les bienfaits. Mais les adversaires de l'union des catholiques et des orthodoxes professent une étonnante estime pour sa personne. Ils se disent prêts à tout. Ils sont convaincus que s'en serait fait de l'union s'il venait, lui, à se ranger sous leur bannière. Alors ils voient l'union de l'autre côté. Ils essaient plus d'une fois de le gagner à leur cause parce qu'ils l'admirent beaucoup. La situation devient de plus en plus difficile, comme vous voyez. Alors Saint Josaphat est alors en butte à quelques fanatiques. Il y a toujours des fanatiques, malheureusement, qui s'insèrent. Alors on ne lui ménage ni les insultes, ni les mauvais traitements, plus ou moins désagréables. Mais c'est une portion très minoritaire des orthodoxes qui fait ça. Alors, s'il paraît en public, il reçoit des insultes, avec les surnoms d'ignorants, d'impies, d'imposteurs. C'est pas ce qu'on appelle du bel écuménisme. Alors, ces épreuves fortifient ce jeune diacre. Ça le prépare au sacerdoce. Et pour se rendre plus digne de cette dignité et plus utile au salut du prochain, Josaphat s'applique avec une ardeur redoublée à l'étude de la philosophie et de la théologie sous la direction du père Fabricius. Et ce disciple, comme disciple, se montre digne du maître. Il profite parfaitement de ses leçons. Et grâce à l'élévation de son esprit aussi, la solidité de son jugement, il a une très bonne mémoire. Et surtout grâce à l'action de l'Esprit-Saint, qui second ses dons naturels, ça lui facilite la compréhension des grands mystères du christianisme. On peut difficilement dire avec quel enthousiasme Josaphat est devenu prêtre. Puis il a exercé son sacerdoce. À l'église, chez lui, dans les rues, dans les hôtelleries, les places publiques, partout, il explique la doctrine chrétienne avec une rare clarté. Et sa parole portait la persuasion dans l'âme des auditeurs. Et aussi le clergé non uni, parfois, défendait aux siens d'entamer la conversation avec Josaphat. Il craignait ça. Et tandis que les catholiques témoignaient la haute estime qu'ils avaient de ses mérites, ceux qui ne partageaient pas ses opinions le nommaient « ravisseur d'âme » d'Utschorfquat. Pour le discréditer dans l'opinion du peuple, certains des quelques fanatiques le font peindre sous la forme du démon avec des cornes et armé d'une fourche comme pour harponner les âmes. Et au bas, on lisait cette inscription « ravisseur d'âme ». Et Josaphat s'en faisait un titre de gloire. « Dieu veuille, disait-il, que je puisse ravir vos âmes pour les lui présenter dans l'union. » Saint Josaphat n'éprouvait jamais de fatigue. Il était chargé de remplacer l'égoumène du monastère, c'est-à-dire l'abbé, si vous voulez, l'égoumène du monastère. Il remplissait à lui seul les emplois de tous. Il était à la fois confesseur, prédicateur, économe, quêteur, sacristain, préfet du chœur, c'est-à-dire celui qui dirige la chorale, comme vous en avez entendu une tout à l'heure, très belle chorale orthodoxe, infirmier, excitateur. Et plus il était digne de commander, plus il s'empressait au service de ses inférieurs. Sa charité envers les pauvres était sans égale. Aussi, les pauvres l'appelaient leur cher père. Et il recourait sans cesse à sa générosité. Mais toutefois, l'union des églises lui était encore bien plus à cœur que le soulagement même des misères corporelles. Ramener les non-unis à l'unité, assurer le triomphe d'une église unie telle que souhaitée par Jésus-Christ, Et telle a été la préoccupation constante de cette âme d'apôtre, qui parfois, dans son enthousiasme, exagérait un peu, il faut l'avouer. Et les orthodoxes avaient raison à certains moments de se plaindre de lui. Mais grâce à son éloquence persuasive, jointe à une grande charité, il a fait de nombreuses conquêtes, tant parmi le peuple que dans la noblesse de Vilno. Un de ses grands succès était la conversion du palatin de Novogrodek, Théodore Skoumine-Tchitchkiewicz, le plus puissant seigneur russe de Lituanie, et de son fils Yanush, secrétaire du Grand-Duché. Ils deviennent non seulement parfaits catholiques, mais encore de grands bienfaiteurs de l'ordre de Saint-Basile, les Basiliens, et nommément du couvent de la Très-Sainte Trinité, non loin duquel, ils élèvent une grande chapelle destinée à servir de sépulture à leur famille. Alors la nomination de Josaphat au siège épiscopal de Polotsk allait ouvrir à son zèle là, une bien plus vaste carrière. Le sacre a eu lieu à Vilno le 12 novembre 1617, c'est une date mémorable, car 6 ans après, à pareil jour, Josaphat recevra la palme du martyr, la consécration du sang. Il sera tué par un petit groupe de fanatiques. Le nouvel évêque était âgé de 38 ans au moment de sa consécration. Il en comptait 14 de profession religieuse. Et 2 mois après, il se rend à Polotsk, où on le reçoit avec des honneurs inaccoutumés. Mais le cœur de Josaphat incline vers la tristesse, lui, plutôt que vers la joie, comme s'il avait un pressentiment que tous ces honneurs seraient un jour suivis du crucifixion. Comme son maître. Une fois seul à la tête du diocèse, Josaphat donne libre carrière au zèle dont il est tout à fait consumé jusqu'au tréfonds de lui-même. Il commence par supprimer les abus qui se sont introduits dans son église, notamment dans le clergé. Tous les ans, il célèbre un concile diocésain, synode quoi. Il visite les églises confiées à son administration. Et les règles qu'il propose à l'usage des prêtres, qu'on possède encore, on a encore les textes, ça témoigne assez là, du soin qu'il met à relever et à maintenir une discipline ecclésiastique solide. Un pasteur des âmes doit, d'après lui, travailler à acquérir avant tout la science et la sainteté. Aussi, il les engageait à s'approcher souvent du sacrement de la pénitence. Il le dit bien, un pasteur des âmes doit travailler à acquérir avant tout la science et la sainteté. Alors, il le recommandait le sacrement de pénitence et le plus souvent possible la Sainte Eucharistie, qui n'est pas toujours pratiquée tous les jours dans les rites orientaux. Sur sa demande, les pères de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, enseignent la théologie morale au clergé grec uni. Et nous verrons avec quel soin Josaphat, le père Monseigneur Josaphat se conforme au canon de l'Église et des pères, et que sa fidélité observée dans toute leur pureté, les traditions de la liturgie grecque, sans introduire le moindre changement dans le rite, ont causé une vive joie parmi ces diocésains, et nous allons donc écouter la belle liturgie célébrée par ces frères chrétiens, tant orthodoxes que catholiques. Saint Josaphat nous rappelle les déclarations de la Congrégation pour les Églises de rite oriental, c'est-à-dire les Églises catholiques de rite oriental. Il y a une congrégation comme ça au Vatican. Et en janvier dernier, on y a déclaré « Tout effort de renouveau liturgique doit prendre en considération la pratique de nos frères orthodoxes, qu'il faut estimer et dont il faut s'éloigner le moins possible pour ne pas accentuer l'actuelle séparation. » C'est donc le rôle de ces uniates, de ces chrétiens unis aux catholiques, de préfigurer dans l'amour la grande union tant souhaitée par le cœur de Jésus. Nous ne les considérons pas toujours avec suffisamment de respect et d'affection. Nous ne les connaissons pas assez. Mais si nous fréquentions davantage leurs églises catholiques, il y en a beaucoup à Montréal. En beaucoup? Il y en a plusieurs dizaines, vous savez. Vous pouvez aller à la messe le dimanche dans ces églises de rite oriental, très différentes les unes des autres. Et vous pouvez là goûter un peu à la splendeur de l'orthodoxie. Il y a eu des troubles à un moment donné, occasionnés entre les orthodoxes et les catholiques. Et pendant que Saint Josaphat avait quitté Paulos, son diocèse, il y a eu des problèmes. Et de retour, Josaphat a trouvé les esprits complètement changés et en était affligé, plutôt que surpris. On l'avait informé de tout ça pendant qu'il était à la diète. Il était à la diète. La diète, c'est une réunion politique. Alors, il apporte même un décret du roi Sigismond qui défend à tous ces diocésains sous les peines les plus sévères d'avoir aucune communication avec des usurpateurs. Il leur enjoint d'obéir au seul Josaphat, leur véritable pasteur. Alors, au jour indiqué pour la notification de ce document, l'archevêque Josaphat se rend à l'hôtel de ville. Et là, il y a le palatin qui fait donner lecture du décret royal. Puis Saint Josaphat prend la parole. Il fait sa profession de foi. Il supplie les assistants de ne pas l'abandonner. De ne pas l'abandonner dans son effort d'union des églises et de mettre fin aux dissensions religieuses. Alors les chefs du parti adverse protestent très hautement contre les ordres du roi. Ils ajoutent qu'ils préféraient mourir plutôt que d'obéir à Josaphat, parce qu'ils ne veulent pas, eux, s'unir à cette église qui a souvent été, notre église, très décadente, qui a été souvent abusive, qui n'a pas toujours été digne de son mandat. Il faut pas blâmer les orthodoxes, il faut les comprendre. Il faut comprendre aussi les autres. Ouvrons notre cœur. Alors la multitude, finalement, se fait écho de toutes leurs cris. Et le pauvre Josaphat va infailliblement être tué sur place, mais il est protégé par les magistrats qui repoussent à main armée les flots de la populace. Et puis, il l'escorte jusqu'au palais archiépiscopal. Loin de témoigner du ressentiment contre ses agresseurs, Saint Josaphat les traite avec encore plus de bonté, comme un vrai père. Il invite à sa table les principaux meneurs de la cabale contre lui. Il les entretient de la doctrine catholique de l'union, tout en vantant la grandeur de l'orthodoxie. Il les conjure d'accéder à l'union. Un conseiller de la ville, nommé Terlikovski, touché de tant de douceur, reconnaît enfin que l'union serait grandement préférable. Lorsqu'il se présente à la cathédrale pour demander pardon à Dieu et à son ministre, Josaphat va à sa rencontre, le serre contre sa poitrine, comme on fait souvent chez les orthodoxes. Quand j'ai rencontré le patriarche écuménique Athénagoras, le grand chef, si on peut dire, de l'orthodoxie à Istanbul, il m'a serré contre sa poitrine. C'était tellement émouvant. J'étais profondément touché. Je savais que ce patriarche Athénagoras souhaitait l'union. Je me souviens plus de tout ce que je lui avais dit en m'approchant, mais combien je disais que je souhaitais l'union. Il m'avait serré contre lui. Il était très grand, plus grand, beaucoup plus grand que moi encore, avec sa grande barbe blanche. Ah, quel beau moment de ma vie. Et alors, Josaphat va à sa rencontre, donc le serre contre sa poitrine, il le conduit à l'autel. Il dit, Seigneur, il dit ça en versant des larmes de joie, voici une brebis que je viens de retrouver et que je vous recommande. Une autre fois, au milieu d'un sermon, dans lequel il a démontré avec une grande force le dogme catholique de la procession du Saint-Esprit et la primauté du pape, Josaphat éclate en sanglots. Il s'écrie que pour cette doctrine, la seule véritable, il est prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de son sang, et à ce spectacle, plusieurs dissidents lui demandent à rentrer au sein de l'Église, tellement ils sont émus. La douceur évangélique et le zèle désintéressé de ce saint Josaphat parviennent à ramener le calme dans les esprits pendant un certain temps. Alors Paulos recouvre la paix pendant un bon moment. Mais ça n'en est pas ainsi dans d'autres villes du diocèse qui sont privées habituellement de sa présence. Elles sont travaillées par des adversaires, avec d'autant plus d'ardeur qu'ils sont plus irrités par le succès de sa parole, puis le grand prestige de sa sainteté sur tous ceux qui l'approchent. Et dans le courant d'octobre de l'année 1623, bien le bruit s'est répandu à Polotsk que l'archevêque se propose d'aller à Vitebsk. Alors plusieurs de ses amis le supplient de mettre cette visite pastorale à un autre moment, un moment plus favorable, ou au moins d'accepter une escorte avec lui, des soldats peut-être, des policiers. Alors l'un d'eux, le comte Michel Tichkiewicz, Juge suppléant de la ville offre de l'accompagner lui-même avec ses gens. Saint Josaphat ne veut d'autre escorte que sa propre suite, qui n'ont pas d'armes. D'autres protections, il veut rien d'autre protection que celle de Dieu. Et au moment du départ, il donne l'ordre qu'on lui prépare dans la cathédrale un tombeau, à l'endroit qu'il désigne. Puis, agenouillé devant le maître-autel, il fait la prière suivante. « Ah, Seigneur, je sais que les ennemis de l'Union en veulent à ma vie. Je vous offre donc ma vie de tout mon cœur. Et puisse mon sang éteindre cet incendie qui est causé par le schisme. » Et comme ces paroles effraient les siens, il dit, « Mes enfants, ne craignez rien, aucun de vous ne périra, je succomberai seul. » Et cela dit, il se met en route. Les habitants de Vitebsk reçoivent leur pasteur avec un respect un peu simulé. Il y a quelque chose de trouble. Car ces jours sont comptés à Saint-Josaphat. Profitant de l'absence des principales autorités, certains chrétiens séparés font un nouveau complot, auquel prennent part deux magistrats de la ville et un grand nombre de citoyens, mais pas autant qu'on pense. L'archevêque le n'ignore pas, et 8 jours avant la perpétration du crime, dans un sermon qu'il fait en l'honneur de Saint Démétrius, le grand martyr, sur ces paroles de l'Évangile, viendra un jour où quiconque vous mettra à mort croira avoir fait une chose agréable à Dieu. Il ajoute, « Vous désirez ma perte. Sur les fleuves, sur les ponts, dans les rues, dans les cités, partout, vous me tendez des pièges. Alors me voici maintenant au milieu de vous. Fasse Dieu que je puisse donner ma vie pour vous, qui êtes mes brebis, pour la sainte union, pour le siège de Pierre, qu'occupent les souverains pontifes et successeurs. » Et dans une séance tenue à l'hôtel de ville, le 11 novembre, on fixe le jour suivant, c'était un dimanche, pour exécuter le crime, et on arrête la marche à suivre. Et le soir même, l'archevêque est informé de tout par un consul de la ville, Pierre Ivanovitch, bon catholique, lui. Mais il ne veut ni déjouer les machinations de ces quelques conspirateurs, ni profiter des ténèbres de la nuit pour se dérober à leur coup et se sauver. Durant tout le temps du souper, il parle de sa mort imminente, comme s'il s'était agi d'une fête, quoi. L'archidiacre Dorothée l'interrompt en disant, « Monseigneur, vous devriez bien nous laisser un peu manger. » Et Josaphat lui répond, « Ne craignez rien, ce n'est pas de votre mort, mais de la mienne que je parle. » Et après le souper, il se retire dans ses appartements, puis passe la plus grande partie de la nuit en prière, en oraison. Et le lendemain matin, au premier son de la cloche qui annonce l'heure des matines, Saint Josaphat se rend à l'église de la Sainte Vierge, voisine de son palais. Pendant qu'il prie, un prêtre apostat nommé Élie, un prêtre qui avait changé de côté, quoi, est arrêté dans la cour de l'évêché par ordre de l'archidiacre Dorothée, dont je viens de vous parler. Et en raison, voici la raison, telle qu'elle a été donnée plus tard par les complices du meurtre. Et je cite, voici le texte très ancien. « Des noms unis avaient élevé, pour leur réunion privée, 2 cabanes, dont l'une était située sur le bord opposé de la Dwina, en face du palais épiscopal, bien que le Vladika, c'est Saint-Josaphat, ça, entendit de ses fenêtres les chants, les cris et les propos outrageants qui en partaient et qui étaient dirigés contre sa personne. Il fit semblant de ne rien savoir. Il se contentait de prier Dieu pour les malheureux, en disant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Le prêtre Élie avait été auparavant sous l'obédience de Josaphat, qu'il abandonna pour aller se joindre au parti rebelle. Il traversait la cour de l'évêché fréquemment et sans nécessité, affectant des airs de mépris et proférant des paroles provocantes. Malgré la défense qui lui avait été faite, il repartit ce jour-là, et aussitôt il fut arrêté par des serviteurs du palais et enfermé dans la cuisine sans qu'on lui fît du reste aucun mal. Les conspirateurs, qui n'étaient pas très nombreux, je le répète, n'attendaient que cette occasion pour accomplir leur projet criminel. Aussitôt, on sonne le tocsin. La foule accourt de tous côtés vers la demeure épiscopale, remplissant les airs de clameurs, de vociférations et d'injures. Et ça rappelle le procès de Jésus. La foule se laisse entraîner si facilement, a dit, à faire n'importe quoi. Alors, je continue la lecture, c'est la fin, là. Une grêle de pierres, de bâtons et de balles plut sur les serviteurs qui faisaient la garde autour du palais et dont plusieurs furent gravement blessés. Alors, c'est la fin de la citation. Alors, informé de tout ce tumulte, Josaphat ordonne de mettre en liberté le prêtre détenu. Puis, les matines terminées, il se rend au palais, à travers la foule ameutée. Il était rentré et s'était mis de nouveau en prière afin de se préparer au sacrifice de sa vie. Lorsque l'émeute se ranime et le nombre des rebelles allait croissant, et les attaques devenaient plus meurtrières, et voyant surtout que les serviteurs de l'évêque n'opposent qu'une résistance inoffensive, ainsi que leur maître d'ailleurs le leur a ordonné, eh bien les assaillants redoublent d'audace, ils pénètrent dans le vestibule, ils maltraitent cruellement des officiers de Saint-Josaphat qui s'y sont réfugiés. Et l'archidiacre Dorothée reçoit à la tête 18 blessures et à tous les membres fracassés. Emmanuel Cantacuzène, majordome du palais, atteint de 13 blessures et noyé dans son sang, est laissé pour mort. En entendant les gémissements des victimes innocentes, Josaphat interrompt ses entretiens avec Dieu, sort de sa chambre et s'avance tranquillement vers les assassins. Et après leur avoir donné sa bénédiction, il leur dit « Mes enfants, pourquoi maltraitez-vous mes serviteurs qui ne vous ont fait aucun mal, si vous en voulez à ma personne et alors me voici ?» Alors les soldats demeurent immobiles et stupéfaits, et tout à coup deux misérables s'élancent à travers la foule en criant « Abat le suppôt des latins !» Abat le papiste! Il se jette sur l'archevêque au moment où celui-ci croise les bras sur sa poitrine, et l'un des sicaires, des soldats, le frappe au front avec une longue perche. L'autre lui assène un coup de hallebarde, lui fend la tête et l'archevêque tombe. Les meurtriers l'accablent de coups et le maltraitent avec une telle barbarie qu'il n'a plus figure humaine. Et malgré ses blessures, il peut encore faire le signe de la croix et prononcer ses paroles, les dernières qui sortent de sa bouche. « Oh, mon Dieu !» Alors les bourreaux, voyant que la victime respire encore, lui tirent deux coups de fusil qui lui transpercent le crâne. Et ainsi expire Saint Josaphat Kontchevitch le 12 novembre 1623. Il n'avait que 43 ans. Alors ce terrible crime accompli, la mort de Saint Josaphat, eh bien, les quelques assassins ont mis à sac la maison de cet évêque. Ils ont pillé, dévasté tout avec une rage inouïe. Ils étaient sous l'effet de l'alcool. Qu'est-ce que peut faire l'alcool, hein? Même chez des gens croyants, comme ces bons, ces orthodoxes étaient peut-être de bons orthodoxes, mais pris par un fanatisme. Il faut comprendre et pardonner, hein? Je ne raconte pas ça pour diminuer les orthodoxes, loin de là. Vous verrez ce qui va arriver. Hein? Alors, ils sont revenus auprès de la dépouille de Josaphat. Ils l'ont traîné au milieu de la cour. Puis ils ont insulté le cadavre. L'effet de l'alcool. Un chien fidèle qui défendait le corps de son ancien maître a été tué. Son sang s'est mêlé au sang du martyr, chose étrange. C'était pas assez. Alors, oubliant toute pudeur, ces meurtriers ont dépouillé le corps de ses vêtements. À la vue du cilice et de la ceinture de fer que Saint Josaphat ne quittait jamais, ils ont été saisis de surprise. Leur étonnement augmente lorsqu'ils découvrent dans une cassette une discipline ensanglantée. Une discipline, c'est un fouet. Alors ils ont commencé à craindre d'avoir tué quelqu'un d'autre à sa place. Ils ont interrogé le domestique du défunt, Grégoire Ouchatsky, témoin oculaire de sa mort, puis un nommé Jedlinski, valet de Cantacuzène. Alors, rassurés, joyeux, ils ont prodigué au martyr des nouveaux outrages. Ils savaient que c'était bien lui. Ils étaient vraiment pris par l'alcool. Hein. Les uns lui souillent les cheveux et la barbe, d'autres crachent sur son visage ou le frappent à coups redoublés. Des femmes, des enfants, des vieillards, plusieurs prennent part à ces infâmes divertissements. Ça nous rappelle ce qui vient de se passer au Rwanda. Que l'humanité est étrange, hein, quand elle perd, comme on dit ici au Québec, quand elle perd le nord. Le fanatisme leur avait enlevé la pudeur, l'usage de la raison, et dans leur démence, ils ont arraché le cilice qui couvrait son corps. Ils ont attaché au pied une longue corde et l'ont traîné ainsi dans les rues de la ville jusqu'à un endroit élevé qui surplombe la Dwina, la rivière. Et de là, ils l'ont précipité dans le fleuve en criant « Tiens ferme, monseigneur, tiens ferme », en se moquant. Et contre toute attente, le corps n'éprouve aucune lésion. Il reparaît sur les flots. Alors on le place sur un bateau. On lie fortement au cou le cilice rempli de grosses pierres. Le cilice, c'est comme une chemise de métal. Et on plonge, pas de métal, mais ça peut être de crin aussi. Et on plonge la dépouille à l'endroit le plus profond du fleuve, connu sous le nom de Peskovatik. Et la victime est ensevelie dans les eaux. Alors, les criminels s'en vont triomphants, mais comme pour confondre leur rage, le ciel se couvre de nuages épais, qui changent presque le jour en nuit, comme lors de la mort de Jésus. Et les catholiques, alors, font tout ce qu'ils peuvent pour retrouver le corps du martyr sans obtenir pendant plusieurs jours aucun résultat. C'est le 16 novembre, 4 jours plus tard, un peu avant midi, que les pêcheurs chargés de cette mission aperçoivent comme un rayon lumineux qui sort au sein des eaux. Alors ils arrivent avec leur barque à cet endroit, puis ils découvrent en effet l'objet de leur recherche, et bientôt, la dépouille de Saint-Josaphat est retirée des eaux et amenée au rivage. Alors à la nouvelle de la découverte, il y a une foule de curieux qui accourent de la ville pour considérer le bienheureux. Et parmi les spectateurs se trouve un conseiller de la ville de Polotsk, nommé Jean Chodika, que des affaires avaient amené à Vitebsk 2 jours auparavant. Et voici son témoignage. « Pendant que les 2 bateaux chargés du corps et des pierres s'avançaient dans la direction de Vitebsk, je les suivais en pleurant le long du rivage et jusqu'au château. Et là, le corps fut déposé au milieu de l'église Saint-Michel, et c'est alors seulement que je pus le contempler à loisir. Le visage était serein, comme je ne l'avais jamais vu du vivant de Josaphat. Ce spectacle produisit sur moi une impression si profonde que je renonçai sur le champ au schisme en déplorant le meurtre commis. Alors la ville se remplit de deuil, de lamentations, et le corps est demeuré exposé pendant 9 jours dans l'église du château, vêtu d'habits pontificaux, et répandant, dit-on, une odeur de lys et de rose. Une affluence considérable, clergé, noblesse et bourgeois, sont accourus de Polotsk pour escorter le corps qui fut transporté en grande pompe dans cette ville, et les habitants de Vitebsk ont accompagné le cortège de leurs sanglots et de leurs larmes. Parce que les parricides détestaient le forfait qu'ils avaient commis. Ils en ont demandé pardon à Dieu, ils l'avaient fait sous l'effet de l'alcool. Il y avait même des calvinistes, des protestants qui pleuraient à chaudes larmes en s'écriant « Ah, malheureux, ils ont fait mourir un innocent, un saint. » Et même des juifs ont manifesté leur compassion. Et quant aux témoins qui ont fait leur déposition juridique devant le tribunal, ils ont été unanimes à déclarer avec serment que le dévouement de Josaphat à l'Église catholique et au souverain pontife avait été l'unique cause de sa mort. L'unique cause de sa mort. On sait que ceux qui l'ont tué ont confessé eux-mêmes que Josaphat s'était offert en victime à Dieu et au souverain pontife pour rendre témoignage de la primauté de Saint-Pierre et ses successeurs. Lorsqu'on est arrivé à Polotsk, le peuple s'est précipité sur le rivage pour contempler leur pasteur martyr. Et ce fut un spectacle vraiment déchirant de voir cette multitude composée de gens de tout rang, de tout âge, de tout culte, j'insiste. Il y a un écuménisme fantastique qui s'est fait à ce moment-là. Une union dans l'amour. Ils se sont tous livrés aux larmes. Vous savez qu'on pleure facilement dans ces régions. Il ne faut pas se moquer de ça, nous qui ne pleurons guère. Car les uns sanglotaient, les autres se frappaient même la poitrine. Nous ne faisons pas de tels gestes, mais respectons ces démonstrations. Ceux-ci imploraient la miséricorde divine et ceux-là suppliaient Josaphat de leur pardonner. Alors les chants funèbres ont été étouffés par les gémissements, les sanglots. On porta le corps à la cathédrale Sainte-Sophie, où il est resté exposé durant plusieurs mois, sans subir aucun changement, aucune décomposition. Il était toujours beau. De visage, il continuait d'exhaler une suave odeur. Ses lèvres, rouges, éclatantes, semblaient prêtes à parler. Et l'aspect de sa figure, qui durant sa vie ramenait les pécheurs à la vertu, touchait, après sa mort, les cœurs les plus endurcis des adversaires de l'Union. Il était impossible de le contempler sans se sentir touché par la grâce. Dès ce moment, le martyr commence à opérer quantité de prodiges. Les boiteux marchent et les aveugles recouvrent la vue. Il y a des malades désespérés qui retrouvent la santé. Il y a des récits de tels miracles se lisent dans la vie de beaucoup de saints. Ce qui nous intéresse davantage, évidemment, ce sont les merveilles de la grâce. Et ce fut un de ces miracles qu'on a vu s'opérer dans la personne de son principal ennemi, ennemi déclaré de l'Union, instigateur de la révolte dont Josaphat est mort. À partir du 12 novembre 1623, cet homme qui s'appelait Mélès Smotritsky et bien appuyé, eut de repos, jusqu'à l'heure où, après une lutte intérieure de 4 ans, il a fait enfin le pas décisif, et le reste de sa vie était consacré exclusivement à la pénitence, à la prière, à la défense de l'union. Je vous ai raconté ce drame terrible, non pas pour que vous ayez quelques regrets, au contraire. Soyez remplis de cette pensée de Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Ce sont quelques orthodoxes qui ont fait ça. L'ensemble, vous avez vu des orthodoxes à pleurer la mort. Réveille en ton Église, Seigneur, c'est la prière aujourd'hui de la messe. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permet qu'avec l'appui de sa prière, et fortifié par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères séparés, que nous aimons du fond de notre cœur. Nous te le demandons, ô Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit d'être unis dans l'Esprit Saint.